Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien! Bon!
Bonsoir, c'est dimanche, c'est 22h, c'est la causerie sur Radio Canu au 102.2 ou sur radiocanu.org et c'est en direct avec ce soir à la technique Clara.
Bonsoir.
Et autour de la table, Jean-Yves.
Bonsoir, et Fab.
Et moi-même. Et voilà. Et donc, si tu veux nous joindre, c'est lacausericanu@gmail.com, lacausericanu@gmail.com. Si tu veux aller voir les blogs, c'est à blogs avec un s.radiocanu.org/lacauserie, ou tu vas sur radiocanu.org et tu trouveras la causerie et plein d'autres émissions super sympas. Donc, faut pas hésiter. Et puis, sinon, on est sur les podcasts, sur les trucs de balado-diffusion, comme diraient nos cousin québécois, et là tu tapes la causerie Canu, mais il faut vraiment taper la causerie Canu, parce que sinon tu vas tomber sur d'autres causeries totalement improbables, et qui parfois très intéressantes, mais c'est pas nous, donc c'est pas pareil, si c'est nous que tu cherches.
Intéressante, je ne sais pas, j'ai jamais écouté.
C'est ton point de vue.
Non, mais il y en a.
Ces propos n'engagent que Fab.
Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui ont appelé leur émission genre la causerie de quelque chose et que c'est intéressant.
Oui, non, voilà, mais évidemment, la causerie pas. N'est pas une marque déposée.
Non. On aurait dû d'ailleurs, parce qu'on aurait été super riches. Bon, je déconne. Et donc, du coup, voilà. Et puis sinon, tu peux nous retrouver sur Facebook, mais on n'y fait que poster. Enfin, on fait ce que sert Facebook, hein, ce réseau socio-commercial. Donc, on fait du commercial, hein, c'est-à-dire qu'on voit un truc gratos. On voit un truc gratos. Quelle émission, voilà. Et donc voilà, j'ai à peu près fait le tour.
Bah oui, aussi sur d'autres réseaux type
ouais.
Mastodonte,
ouais,
etc.
Souvent partagé, c'est cool d'ailleurs. Merci.
Voilà, merci.
Parce que c'est pas forcément nous qui partageons. Donc,
ouais, c'est ça. Donc merci. Eh bien, on commence sans plus tarder. C'est donc Fab ce soir qui nous propose de nous envoyer en l'air.
Ouais, tu l'as fait comme ça dans l'ouverture. Ok, alors, donc du coup.
Mais quoi
D'accord, du coup, oui. En fait, je vous propose surtout d'aller voir loin dans l'infini plutôt que de s'envoyer juste en l'air. Mais voilà, on va aller loin et voilà, parce qu'on va aller vers l'infini et au-delà, comme dirait Buzz l'éclair. Et là, d'un coup, vous dites, mais envoyer en l'air Buzz l'éclair dans la même phrase, mais on n'a pas peur à la causerie. Et en fait, je vais vous parler en fait du télescope James Webb, parce que je vous en avais parlé le 30 janvier 2022. Au moment où il a été lancé. Et je vous expliquais que ce petit bijou allait permettre des découvertes assez énormes, mais aussi permettre de voir des astres, y compris proches, comme rarement nous les avions vus. Et ça, c'est plutôt cool. Et depuis plus d'un an, hein, on peut dire que ça n'a pas chômé du côté du télescope. Bon, en même temps, je rappelle qu'il est prévu pour travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est son job.
C'est quand même bien les machines.
C'est qu'une machine, hein, non mais ouais. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais non, c'est pas les mêmes équipes qui se connectent au télescope, hein, voilà. Mais le télescope, lui, tourne tout le temps. Et cela va peut-être vous surprendre, hein, quelque part, mais il semble qu'une découverte sur deux, aujourd'hui, pose des questions, ou remette en cause des choses connues. Et ça, c'est plutôt cool, quand même. Alors, moi, je vois déjà les tenants du « gna gna gna, la science, elle se trompe tout le temps », qui vont sortir du bois, parce qu'on les connaît, ceux-là. Hein, il suffit d'aller lire les commentaires sur Internet. Alors, moi, je vais leur répondre en rappelant quand même ce qu'est l'esprit critique. Alors, j'ai piqué cela chez Debunker des étoiles, que je salue au passage, et je trouve que sa définition est très, très bonne. Alors, voilà, l'esprit critique. Apprendre la méthode scientifique ou les outils de l'esprit critique ne sert pas à atteindre la vérité, entre guillemets, ou à avoir toujours raison. Ce sont juste des outils et des méthodes pour moins se faire avoir et pour augmenter sa probabilité de ne pas se tromper. Finalement, l'esprit critique, c'est ce qui permet de préférer croire quelque chose qui a 90% de chances d'être vrai plutôt que quelque chose qui a 30% de chances d'être vrai, indépendamment de notre envie que cela soit vrai ou non. Cela ne vous garantit donc pas d'être infaillible, au contraire, même en utilisant les méthodes de l'esprit critique, vous allez finir par vous planter et croire des trucs faux, mais juste moins souvent que les autres. Voilà. Et donc c'est intéressant parce que c'est bien de rappeler ce qu'est l'esprit critique et ce qui est finalement l'esprit scientifique. C'est-à-dire qu'en science, des fois, on pense avoir trouvé une réponse absolue et puis, ben, paf, une découverte fait que, ah ben non, en fait, c'était pas vrai et j'ai cru, bon, parce que c'est une même de la croyance à un certain degré, j'ai cru quelque chose qui était faux. Mais il y a une différence entre les croyants religieux et les scientifiques, c'est que les scientifiques, ils sont formés à l'esprit critique, donc ils savent que bah, c'est pas grave. On va juste remettre en cause ce qu'on avait, voilà. Ils vont pas dire hérétique, je vais te brûler.
Mais rigueur, on remet en cause dans la science quelque chose en s'appuyant sur une démonstration, etc. Ceux qui croient en Dieu ne nous ont jamais démontré encore jusqu'à aujourd'hui l'existence de Dieu.
Par exemple, ouais, voilà. Donc une fois que cela est dit, on va faire un petit tour des découvertes et autres du moment qui remettent finalement les choses en perspective plutôt qu'autre chose. Alors là, j'arrive pas à lire mon titre, c'est terrible, mais c'est pas grave. Ah ouais, ce que j'ai écrit en jaune sur du blanc, c'est une bonne idée, Fab. Alors du coup, oui.
Faut pas lui en vouloir, il débute.
Je débute, ça fait 10 ans que je fais ça. Pardon. Oui, alors en fait, ça commence déjà par quelque chose autour des galaxies qui ne sont pas comme on les attendait. Alors, le télescope James Webb, il a permis de découvrir 6 galaxies massives qui se sont formées très tôt après le Big Bang. Alors, je vous refais pas le truc, mais plus vous allez loin dans l'espace, en fait, et plus ce que vous voyez est vieux. Mmh. Voilà, donc en fait, on a pu zoomer et donc aller voir quelque chose qui est très, 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 très vieux, quasiment 13 milliards d'années quand même, et ça permet quand même de voir les galaxies telles qu'elles étaient au moment où, juste quelques temps après le Big Bang. Alors, entre 300 millions et 600 millions d'années, ça paraît beaucoup, mais en fait c'est très proche à l'échelle de l'univers, vu que l'univers, le Big Bang, aurait 13,7 milliards d'années. Voilà, bon, madame, prends un doliprane ou quelque chose, ça va aller. Voilà. Donc c'est le début de notre univers actuel, en fait, hein, en réalité, le Big Bang, sauf que la masse de ces galaxies, elle est beaucoup plus grande que ce que prévoyaient les astronomes. Et ça peut paraître bizarre, mais en gros, il y a trop de matière par rapport au calcul fait et qui avait permis de trouver la masse supposée de cette époque de l'histoire de l'univers. C'est-à-dire qu'en fait, on avait extrapolé par rapport à ce qu'on vivait aujourd'hui et on s'est dit, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, il y a 13 milliards d'années, ça devait être à peu près comme ça, par des formules, des calculs.
Oui, c'est voilà. Des projections.
C'est une projection, voilà, c'est une projection mathématique. Mmh. Voilà. Et donc, on avait dit, dans 90% des cas, ça devrait être ça. Et pas de bol, c'est passé un peu à côté sur ce coup-là, mais c'est pas grave. Hein. Donc si cette découverte elle est confirmée, parce qu'il va falloir la retravailler plusieurs fois, elle remettra en fait en question les modèles de cosmologie actuels et même notre compréhension de la formation des galaxies dans l'enfance de l'univers. Ouais, rien que ça. Ça a l'air comme ça, mais ça fait beaucoup de choses à remettre à plat.
Quand même. Voilà.
Alors il y a une équipe de chercheurs d'université, alors c'est toujours pluridisciplinaire, hein, donc ils sont d'université australienne, états-unienne, danoise et espagnole, qui ont travaillé ensemble et qui ont pu dépister donc ces 6 galaxies particulièrement massives qui se sont formées environ à 600 millions d'années après le Big Bang. Alors ils ont décrit dans un article qui sont mis dans la revue Nature. En français, et qui en fait est une revue à relecture. Je rappelle ce que ça veut dire. Ça veut dire que avant que ce soit publié, c'est relu par d'autres scientifiques qui donnent un avis en disant ça me paraît pas mal ce qu'ils ont trouvé, ou du moins ça me paraît plausible. Voilà, donc c'est quand même plus sérieux que dans des revues où on paye pour être publié.
C'est ce qu'on appelle être validé par des pairs.
Par des pairs, ouais, c'est ça. Relu par des pairs. Ouais. À relecture par des pairs, ouais. Donc, dans un article du journal Le Devoir, parce que je vous cite mes sources quand même, donc Le Devoir c'est belge, hein, pour info, Nathalie Nguyen Kwok Houlette, qui est donc directrice adjointe de l'Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes et de l'Observatoire du Mont Mégantic, j'arrive pas à le dire, c'est donc en fait un petit peu une pointure, hein, dans son domaine, tout simplement. Elle explique que ce qui est remarquable dans cette nouvelle découverte, c'est la taille, la maturité et la masse des galaxies décrites dans l'article. Il s'agit de galaxies très développées, presque aussi massives que notre galaxie actuelle, la Voie lactée. Et ça, en fait, d'après les calculs, ça aurait pas dû être possible. On aurait dû avoir des galaxies beaucoup plus légères, qui ressemblent pas à la Voie lactée avec ses milliards d'étoiles. Vous voyez, voilà. En gros, ces galaxies qui ont disparu quand même, hein, parce que c'est un petit peu ça qui est dur dans la tête, c'est de se dire que ce dont on parle a disparu entre-temps. Donc, ces galaxies qui ont disparu depuis quand même des milliers d'années avaient une forme connue et étudiable. Et ça, c'est aussi nouveau, parce qu'en fait, on pensait que ce serait pas aussi simple de les étudier. En utilisant en fait les mathématiques et les calculateurs et en appliquant les données que l'on connaît aujourd'hui, les scientifiques s'attendaient à trouver en effet des galaxies, mais pas de ce genre-là, et surtout 100 fois moins lourdes. Donc c'est un petit peu un facteur 100, ça avait, commence à faire. Hein, voilà. C'est un petit peu comme si tu commandais une barrette de shit et puis qu'on t'en livre une 100 fois plus grosse. Bon, bah, ça fait bizarre. Bah, c'est un peu ça. Voilà. Et donc ils disent, elle dit, parce que c'est toujours Nathalie Nguyen Quoc-Houlette qui parle, selon ce que décrivent ces chercheurs, ces galaxies se sont développées plus rapidement qu'on ne le pensait. Ces observations vont à l'encontre des modèles cosmologiques actuels et des lois de la physique que l'on croyait qui existaient au début de l'univers. Et elle l'explique tout simplement. Et oui, parce qu'il y a quelque chose qui est totalement contre-intuitif pour nous qui avons l'habitude de vivre dans un état donné, mais sur une durée de vie très courte, parce que finalement un humain sa vie en gros 80 ans hein, et voilà, c'est assez court à l'échelle de l'univers. Les lois de la physique, comme le reste, ont évolué vers un équilibre. Il y a aussi une théorie de l'évolution des lois de la physique. Alors ça peut paraître très étrange, mais en fait c'est connu depuis très longtemps. C'est-à-dire que quand il y a un truc qui part dans tous les sens, ça finit au bout d'un moment par s'équilibrer de façon à donner quelque chose de plus harmonieux, entre guillemets.
Ouais, il y a une stabilisation. Mais avant cette stabilisation.
Mais avant, c'est le bordel. Ouais. Voilà. Parce qu'alors, au début, normalement, c'est un peu le bordel, et faut quand même bien le dire, c'est compliqué de savoir vers quoi on allait. Et en fait, la découverte qui a été faite là, elle permet de se dire, ça n'a peut-être pas été aussi bordélique aussi longtemps qu'on le pensait.
Okay.
Et ça a été peut-être plus court qu'on le pensait. Donc ça va changer, par exemple, l'idée de le Big Bang, combien de temps ça dure. Est-ce que c'était immédiat? Parce que vous savez qu'il y a, vous savez peut-être pas, mais il y a 5 théories du Big Bang. Il y a ceux qui disent ça s'est fait en quelques microsecondes, ça a explosé et hop, l'univers a commencé à s'étendre. Il y a des gens qui disent ça a pris entre 100 millions et 200 millions d'années. Donc ça s'est éclairé petit à petit, voilà. D'autres qui disent ça a pris 1 milliard d'années. Et en fait, et ainsi de suite, hein, il y en a plus. Et en fait, prouver qu'il y a des galaxies très massives, donc très équilibrées, qui existaient 600 millions d'années après le Big Bang, ça permet de dire,
oui,
en fait, ça a dû être plus rapide qu'on le pensait.
Oui, ça réduit en fait les possibles, en fait.
C'est ça, ça enlève des variables.
On s'approche un peu, peut-être, d'une vérité jusqu'à ce qu'elle soit démontrée.
C'est ça, on se rapproche pas d'une vérité absolue parce que ça n'existe pas, mais d'un modèle plus fin de la façon dont ça a existé. Donc actuellement, selon les données connues, les galaxies apparaissent d'abord sous forme de petits nuages, d'étoiles et de poussière, qui graduellement prennent de l'expansion avec le temps. Du coup, si les galaxies du début de notre univers avaient suivi les mêmes lois, elles auraient dû être de toutes petites galaxies, peu développé à cette époque reculée du début de l'univers, sauf que non, encore une fois, je vous le redis, elles sont massives et développées. Et ça peut vous paraître très, très... Souvent vous dites, mais pourquoi ils nous parlent de ça ce soir? Et bien en fait, c'est une démonstration, et c'est ça qui est intéressant, que la science s'appuie toujours sur de la démonstration, et la démonstration peut contredire les sciences, ce qu'on connaît. Oui. Et qu'en fait, c'est pas un drame, en fait, au final. Et il faut pas le voir comme un drame. Donc, Joël Lera, parce que du coup, voilà, ça se dit comme ça, mais ça s'écrit L-E-J-A, si vous cherchez. Il est professeur d'astronomie et d'astrophysique à la Pennsylvania State University, dans un communiqué qui a été publié par son université. Donc, il a participé à cette étude. Il dit, j'ai d'abord pensé que nous avions fait une erreur, que nous la trouverions et que la vie continuerait comme avant. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces scientifiques, ils ont d'abord pensé que ce qu'ils ont vu, c'était faux. Et en fait, nous n'avons toujours pas trouvé cette erreur, même après de multiples essais. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que quand ils ont trouvé d'abord ces données, ils se sont dit, il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. James Webb, quelque chose, on n'a pas pris la bonne variable, voilà. Donc il y a quand même d'abord la remise en question de ce qu'on voit. Et c'est là la démarche scientifique qui est intéressante. C'est, je vois un phénomène, je le vois une fois, je me dis pas c'est une vérité. Je me dis, probablement c'est une erreur. Et donc je refais plusieurs fois les mesures, et quand je les refais plusieurs fois, plusieurs essais, à plusieurs moments, Et ben en fait, ils se sont rendu compte que ils trouvaient toujours la même chose. Donc oui. C'est pas une erreur, donc, c'est un fait. Et vous voyez, c'est la différence en fait entre j'ai vu une chose une fois, donc c'est vrai tout le temps, et la démarche scientifique. Prenons un exemple, je suis Gérard Darmanin. J'ai vu une fois une personne non blanche voler quelque chose, donc toutes les personnes non blanches volent quelque chose, ça c'est pas scientifique, ça s'appelle du fascisme. voilà, c'est la différence. C'était juste pour montrer la différence. Donc ce quoi rebondit, c'est ce sur quoi d'ailleurs rebondit Madame Nguyen Quoc Aoulet, elle a pas un nom facile à dire. Hein, mais voilà. C'est en effet surprenant de voir que les galaxies décrites dans cet article ont pu prendre de la maturité aussi rapidement, si tôt dans l'histoire de l'univers. En seulement quelques centaines de millions d'années, elles en sont venues à ressembler à notre Voie lactée. Et ça, en fait, c'est extrêmement important et intéressant, parce que comme on le disait tout à l'heure, ça rapproche en fait l'idée que le Big Bang a été beaucoup plus rapide que ce qu'on pensait. Et ça n'a l'air de rien, mais ça veut dire, c'était à ça que servait James Webb. Donc c'est cool, on a quand même réussi à montrer qu'on n'a pas envoyé un truc dans l'espace pour rien. On l'a envoyé parce qu'il nous permet de mieux comprendre comment s'est formé l'univers. Et vous pensez peut-être que cela affole les scientifiques, parce que là, bon, j'ai lu des commentaires où les gens disaient « Ah bah voilà, là, bah non, en fait, hein, eux, ils vont bien. » Ils ont juste dit « Bon, ils ont juste rappelé que c'est pour ça qu'ils voulaient envoyer le télescope James Webb, hein, donc tout va bien. Ils voulaient voir si la théorie collait au réel, et force est de constater que non. » Et donc, c'est juste l'occasion d'affiner, de reprendre les connaissances, de modifier nos certitudes et de démontrer que la recherche scientifique est source d'émerveillement. Parce que finalement, eux, c'est ce qu'ils disent. Ils disent c'est quand même passionnant d'avoir des choses donc, qu'on croit totalement vraies et qui, du jour au lendemain, on vous dit « Oh, non. » Donc voilà. Et qu'ils disent « C'est chouette, quoi. » Donc voilà, donc, plusieurs équipes vont reprendre les travaux de ceux qui ont découvert cette anomalie. Le télescope va être pointé de nouveau pour trouver d'autres données. Et en fait, c'est là qu'il faut se rendre compte, c'est que la science, ça prend du temps. Donc ils estiment que d'ici 5 à 10 ans, nous aurons une nouvelle théorie de l'expansion de l'univers. C'est pas rien, ça. Hein, quand
non,
même.
Mais oui, et puis ça démontre aussi le temps, effectivement, qui est nécessaire pour appuyer une nouvelle théorie, pour affiner une théorie, quoi. C'est vraiment intéressant, quoi.
Et il faut savoir, donc, que si, j'ai regardé le programme, parce que je l'avais pas au moment où j'ai écrit ça et je l'ai trouvé entre temps, le programme qui est prévu pour contrôler, entre guillemets, ça va faire travailler en tout et pour tout entre 7 et 10 000 scientifiques. Mmh. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ce sera pas un homme tout seul ou une femme toute seule dans un coin qui aura trouvé, c'est la communauté scientifique dans son entièreté, dans une grosse partie, qui va se pencher et reprendre les données, et c'est assez génial. Quoi.
Oui, et c'est pas un GUS d'un pays.
C'est toujours dans
deux différents pays.
Et James Webb est pensé comme ça. Hein, c'est-à-dire
ça qui est aussi intéressant à observer, je trouve.
Tout à fait. Alors, ça, c'était pour la partie théorique super flippante, au sens, enfin pas flippante, mais étonnante plutôt, au sens, c'est cool, voilà la démarche scientifique. Et en fait, les scientifiques, ils aiment se marrer de temps en temps, ils se sont dit, on a un super télescope. Et si on l'orientait sur les planètes qu'on connaît déjà? Parce que ça peut être vachement cool de les voir vachement mieux. Vous voyez, c'est un petit peu l'idée. Alors, ça peut paraître plus anecdotique, mais en fait, c'est assez génial. Les scientifiques, ils n'ont donc pas pu s'empêcher de pointer le télescope sur les planètes de notre système solaire. Et là aussi, la surprise, en fait, elle a été assez totale, parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ça. D'abord, pour les couleurs de ces planètes, leur brillance, due au fait de la réflexion de la lumière solaire, hein, évidemment. Et puis, en fait, leurs satellites. Parce qu'en fait, avec James Webb, vous pouvez voir les satellites beaucoup mieux que ce qu'on les voyait jusqu'à maintenant. Et tout ça, ça les a surpris.
On parle bien de satellites...
Comme la Lune. C'est des petites planètes autour d'une grosse planète.
On parle pas de
satellites... Alors, à moins qu'il y ait des autres civilisations, mais si près, on n'en a pas encore.
Non, mais c'est juste pour préciser.
Non, mais t'as raison. Donc, pour la première fois, en fait, on a eu la possibilité de les voir clairement, et pour les scientifiques, du coup, d'étudier plus finement leur composition et leur déplacement. Parce qu'il y a un truc qui peut vous paraître très étrange, mais par exemple, on avait du mal... mathématiquement, on arrive à trouver où allait se trouver une des planètes satellites d'une autre planète, de Saturne par exemple. Par contre, c'était que des calculs. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on faisait des micro-erreurs, ce qui s'appelle des micro-erreurs, c'est-à-dire qu'on était des fois à un décalé d'une minute ou d'une demi-minute. Alors ça paraît rien, mais en fait, c'est beaucoup. Enfin, voilà. Et en fait, en réalité, en les observant, ils se sont rendu compte qu'ils ont pu corriger certains modèles mathématiques pour dire « Ah, en fait, voilà pourquoi, c'est parce que là, par exemple, elle passe à travers un vent stellaire. » Et donc, ça la ralentit légèrement. Et donc, voilà, c'est très, très bête, hein, mais voilà. Mais l'une des plus belles visions, quand même, ça a été celle d'Uranus. Entre sa couleur, ses anneaux, mais aussi ses lunes, tout a pu apparaître beaucoup plus clairement. Il faut savoir qu'Uranus, c'est une des planètes qui n'est pas simple à voir, parce qu'elle est un peu compliquée. Elle est rarement orientée correctement pour qu'on la voie de la Terre.
Déjà. Elle ne montre pas bien ses disques.
Voilà, elle n'aime pas bien se montrer. Voilà. Elle est rare, elle est assez peu étudiée, parce qu'elle a longtemps été vue comme une planète qui n'avait pas d'intérêt, alors qu'en fait, elle en a beaucoup. Et les scientifiques commencent à se rendre compte qu'on l'a un peu sous-estimée. Mais elle est aussi, en fait, une des moins visitées, parce qu'on a du mal, comme elle est loin, à envoyer des satellites et des sondes humaines pour voir. Mais encore plus précisément, et là c'est là que les scientifiques se sont vraiment été surpris, c'est une des lunes de Saturne, qui s'appelle Titan, qui a révélé des choses qui sont assez hallucinantes. D'abord, on savait qu'elle avait une vraie atmosphère, mais là on l'a vu. On a vu l'atmosphère épaisse, et on a vu surtout que l'atmosphère contenait des nuages. Et on sait que certes, cette atmosphère est composée majoritairement d'azote, mais pas que, plus de 98% d'azote. Mais il ne faut pas oublier qu'au début de la vie sur Terre, quand la vie est apparue, en fait, l'atmosphère était composée ultra majoritairement d'azote, autour de 98%. Donc ça laisse penser en fait aux scientifiques que ces observations elles permettent quand même de confirmer que la lune de Saturne pourrait être porteuse de la vie primaire. C'est grisant, non, quand même, de se dire que ce serait peut-être juste à côté de chez nous, ou à l'échelle de l'univers. Parce que à pied, c'est loin.
Donc, voilà. Mais pour quelques années.
Mais voilà. Mais ça, en fait, c'est aussi James Webb qui l'a permis. Parce que ça a permis d'affiner. Et moi, je vous invite, toutes les photos sont, sont en accès libre. Ouais. Vous tapez photographie James Webb, télescope James Webb sur Internet. Vous allez sur le site de l'ESA ou de la NASA. Vous avez toutes les photos. C'est juste fabuleux.
C'est magnifique.
Hein. J'ai pas d'autres mots. Moi, ça fait rêver. C'est-à-dire que vous voyez ça, c'est. Waouh, enfin, je sais pas, voilà, il y a une photo de Titan où vous avez l'impression de voir une petite Terre. Vous voyez qu'il y a des continents, et c'est un autre monde qui est loin, mais pas si loin que ça. Enfin, voilà. Bon, et maintenant, du coup, alors ce qui est impressionnant, c'est de se dire que le télescope James Webb n'est en fonctionnement que depuis quelques mois et qu'on a déjà fait des pas de géant dans la compréhension et la clarification de nos connaissances. Et c'est la démonstration, une fois de plus, qu'un projet international qui n'a pour but que la connaissance permet quand même des bons immenses sans en passer par l'armée, comme beaucoup le pensent nécessaire systématiquement. On peut avoir hâte d'imaginer ce que l'on va découvrir et ce que l'on peut découvrir. Une des pistes les plus étonnantes est celle qui va vers l'idée qu'en fait, nous serions dans un univers qui vient d'un Big Bang, mais que ce Big Bang n'était peut-être pas le premier. Et ça, c'est voilà. Ou peut-être que dans un petit coin de l'univers, et pas dans tout l'univers. Voilà. Et ça, en fait, on va se rapprocher de la possibilité de le savoir. Et ça paraît rien, mais pour moi, c'est juste génial de se dire qu'on vit aujourd'hui à une époque où on va pouvoir peut-être comprendre comment, au tout début, ça s'est produit, et peut-être que c'était pas le tout début.
Oui, c'est ça, en fait.
Voilà.
Même ça, finalement, ça va remettre en question quoi, cette manière de voir.
Et je trouve ça fabuleux. Et je trouve que la science, elle donne quand même de quoi philosopher, penser, rêver de façon suffisamment large pour qu'on n'ait pas besoin de s'inventer des choses qui ont très peu de probabilité d'exister et qui, en s'appuyant déjà sur ce qui existe, ce qu'on découvre, il y a vraiment des choses fabuleuses. Et vraiment, je vous invite à aller voir vraiment les photos. On essaiera peut-être d'en mettre une ou deux sur le blog. Si on peut, parce que je ne sais pas si on peut les récupérer. Mais normalement, elles sont en accès libre. C'est sur les agences
publiques.
Alors
oui, parce que c'est trop beau.
Et allez voir les photos, parce que c'est fabuleux. Et moi, je n'avais jamais vu Jupiter comme ça. Alors que ça fait des années que je fais de l'observation, j'essaye de voir, je suis ce qui se fait.
Ça fait des années.
Que je regarde ce qui se passe dans le ciel. Mais moi, j'ai pas de télescope, mais je suis tout ce qui se passe, ça me passionne. Et franchement, moi, quand j'ai vu la photo, je sais pas, ça peut être bizarre, mais ça m'a un peu coupé le souffle. C'est-à-dire, je me suis dit, ah ouais, mais c'est vraiment beau comme on l'imaginait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ce qui est marrant, c'est d'imaginer qu'il y a des gens qui ont fait dans la science-fiction dans les années 60-70 des choses très ressemblantes à ce qu'on voit aujourd'hui, et que ça permet, à des complotistes de dire que ce sont que des trucs créés par intelligence artificielle. Puis là, je sais plus quoi faire. Voilà. Mais en tout cas, allez-y.
Il y a grand chose à faire.
Voilà, mais allez-y, parce que c'est beau et profitez, et c'est porteur d'espoir.
Oui, et même sans tout quoi capter à tout
non,
ça. Enfin, généralement, je le redis, j'ai pas du tout un esprit scientifique au départ, et à l'arrivée, je suis pas sûr que j'en ai un grand scientifique, mais ne serait-ce que la beauté de ces choses, c'est juste très beau, et que ça nous renvoie aussi à la petitesse qu'on est, parce que finalement, on est absolument rien, en fait, vu l'immensité de l'environnement. Et ça, c'est rien que ça, en fait, ça peut peut-être nous aider aussi à nous dire, enfin, je sais pas comment dire, mais il y a vraiment un truc, moi je trouve, sur la petitesse qu'on est.
Mais je trouve que c'est un appel à l'humilité.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment, en fait, on n'est pas grand-chose.
Non.
On ne nous prenons pas pour plus grand que ce qu'on est. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de valeur en tant qu'être humain.
Non,
on en a, absolument.
Mais je trouve que ça, l'accès à ces données-là et à cette beauté-là, ça permet aussi de se dire, est-ce qu'on a vraiment autant de temps à perdre à détruire notre planète, bouffer, faire du capitalisme, faire la guerre, se détester les uns les autres. Ça paraît peut-être bête, mais moi, je vous invite vraiment aussi à relire Carl Sagan, qui était un grand scientifique et qui a écrit des magnifiques livres. Et en fait, voilà, c'est ce qu'il disait, c'est incompréhensible quand on voit la beauté de l'univers. Mais comme disait Carl Sagan, le vrai problème, c'est qu'on ne donne pas accès à ça à assez de monde. Et c'est pour ça que nous, des fois, de temps en temps, à la causerie, à notre toute petite échelle, alors encore plus petite échelle de la petite échelle, l'échelle de l'univers, on essaye de vous donner l'envie d'aller voir et de vous intéresser et de vous dire, bah tiens, ça m'a plu, donc je vais en parler aussi à mes potes. Et puis des fois, dans un repas, un soir, je vais dire, vous avez déjà vu une photo de Jupiter par James Webb, le télescope James Webb. Et puis voilà, ça donne vraiment envie de... je sais pas, de plonger dans quelque chose de qui en plus je trouve très positif, parce que finalement bah c'est ni plus ni moins que ce dans quoi on vit, cet immense environnement, et c'est de se rendre compte qu'en fait bah nous on est un tout petit caillou lancé à pleine vitesse dans autour de plein de cailloux et autour de plein d'étoiles, et que bah tout ça en fait ça devrait nous donner plutôt envie de se dire putain, la vie est belle, le monde est beau. Mais je me suis dit que j'allais plutôt vous passer une chanson qui disait que le monde va mal.
Allons-y.
Allons-y.
Le monde va mal. Ma 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 ma. 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 L'économie. Ma 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 ma. La pandémie, ma 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 ma. L'homophobie, ma 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 ma. Les sans-abri, ma 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 ma. Les dépressions, ma 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 ma. La récession, ma 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 ma. L'écologie, ma 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 ma. Les tsunamis, ma 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 ma. Le monde va mal. Robotique, ma, 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 les fanatiques, ma, 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 l'Antarctique, ma, 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 la liberté, ma, 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 les réfugiés, ma, 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 l'obésité, ma, 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 les délaissés, ma, 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 le monde va mal. Le monde va mal. Ma 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 ma, l'homophobie, ma 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 ma, les dictatures, ma 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 ma, la non-culture, ma 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 ma, le nucléaire, ma 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 ma, l'ours polaire, ma 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 ma, crédit social, ma 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 ma, délit facial, ma 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 ma, les idées, ma 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 ma, la libido, ma 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 ma, les pronostics, ma 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 ma, tout pour le fric, ma. Woo!
Et voilà, c'était La Poison dans La Causerie avec Le Monde va mal, oui. Et j'ai oublié d'enlever la fin, qui n'était pas terrible. Et du coup, oui, bon, alors vous aurez compris toute l'ironie de cette chanson qui nous appelle à se dire que c'est pas parce que le monde va mal qu'on va commencer à faire la gueule.
Ah, c'était ironique.
Ouais, qu'on peut aussi un peu changer les choses plutôt que de se dire toujours que le monde va mal. Ouais, c'est un peu, voilà. Mais La Poison, je vous conseille, c'est vraiment bien. Et allez voir les clips parce qu'ils sont complètement barrés.
Oui.
Et donc là, ben, on, après être partis dans l'espace, nous allons revenir à une activité beaucoup plus terre à terre avec Jean-Yves.
Oui, tout à fait. Effectivement. Une recherche sur, rapide sur le blog de l'émission et hop, un seul résultat au sujet de la masturbation. Quel drame. Alors, et encore, c'était une réflexion autour des normes, du rôle des religions au sujet de ce qu'on peut encore nommer l'onanisme. Donc pas forcément un sujet sympa, joyeux pour une pratique qui est quand même laid.
Plutôt fun.
Bah oui, en fait, hein, ou en tout cas qui doit l'être en principe. Et pourtant encore trop souvent discuté avec des regards pas des plus positifs, voire invisibilisés ou tu carrément parce que faut pas en parler. Alors ce soir, je vous propose un éloge de la masturbation. Ouais. Oh la foule.
Calme-y. Ouais.
Voilà, c'était super. On y a cru. Et pour cela...
On a cru surtout au fait que c'était très spontané.
Oui, tout à fait. Et pour cela, je vais vous causer du livre « Petit manifeste de la masturbation féminine » de Roxane Godette-Loiseau et Mélanie Guénette-Robert aux éditions de L'Homme, avec un grand H. Et c'est une maison d'édition québécoise. Alors, comme d'hab, quelques mots sur les autrices avant de vous parler un petit peu plus du contenu du livre. Donc, Roxane Godette-Loiseau, c'est une comédienne québécoise qui a fait ses premiers pas à la télé à l'âge de 7 ans, c'est dire. Et c'est une militante féministe. Et le projet du livre, en fait, vient d'elle. C'est une idée qu'elle dit avoir depuis assez longtemps, mais qui, en fait, a pris de plus en plus forme suite à la naissance de sa fille et aussi du mouvement MeToo. Donc, voilà. Mélanie Guénette-Robert, elle est sexologue. Elle est agente de liaison et fait des interventions en violence sexuelle au Québec. Et elle intervenait aussi dans des centres spécialisés autour du trouble alimentaire, comme Roxane Godette-Loiseau, pardon. Et c'est, en fait, c'est là qu'elles se sont connues, en fait. Parce que, en fait, la comédienne a eu ce genre de trouble, effectivement, merci, dans plus jeune. Et voilà, du coup, elle continue à militer un peu dans ces milieux-là, à faire des interventions, elle aussi. Et le livre, maintenant. Alors, pour ouvrir le sujet, je vous propose la lecture de l'intro. Masturbation, un mot simple et familier. Et pourtant, définir la masturbation en seulement quelques lignes est un exercice particulièrement complexe. Pour vos autrices, la masturbation est une façon d'aller à la rencontre de son corps et de ses désirs. Elle fait appel à tous les sens. Cette pratique est empreinte d'un éventail d'émotions, de sentiments et de sensations. Elle permet d'explorer son corps et ses possibles par des caresses, des contractions, des vibrations, des pressions, des touchers et des frottements exercés sur tous les endroits où le plaisir est au rendez-vous. Se masturber est une action particulièrement puissante. C'est l'occasion d'exprimer son désir à sa manière, avec ferveur, fougue ou douceur, et d'être maître de celui-ci. La masturbation est le lieu d'apprentissage de soi et de sa sexualité. Elle offre d'ailleurs la chance de découvrir ses préférences en la matière. Se masturber est une façon de prendre soin de soi, de s'accorder du temps, de l'affection et du plaisir. Les raisons de se masturber, ou non d'ailleurs, sont nombreuses et sont à la fois le reflet de nos valeurs, de notre éducation, de nos expériences de vie, du regard que nous posons sur nous et les normes sociales. L'autostimulation peut aussi représenter une façon de s'exprimer, de se rebeller et d'habiter son corps, ou encore de se le réapproprier. Elle permet à celle qui la pratique de se sentir plus confiante face à ce dernier, certes, mais aussi face à leur capacité à se donner du plaisir et à accéder à la jouissance. Ça, c'est l'intro. Donc le ton est donné, hein, on est vraiment là pour parler masturbation, plaisir, sans rougir. Et quand même, avant de continuer, j'avais quand même envie de préciser qu'en fait, ce livre, il n'exclut personne. Et si majoritairement, bah, le mot utilisé, c'est les femmes, souvent il va être accompagné de et les personnes qui ont une vulve. Et ce qui fait qu'en fait, tout le monde peut s'y retrouver. Toute personne ayant une vulve, qu'elle soit femme ou un mec trans ou une personne non binaire, ça lui parlera parce que on parlera de la même chose en fait. Et comme dit, pour certains, ça peut paraître anecdotique ou woke aussi, sûrement pour d'autres.
On en voit déjà qui tombent en PLS.
C'est ça. Ou inclusif pour d'autres. Moi, je trouve ça vraiment. C'est politique en soi, finalement, cette manière de faire.
Oui, clairement.
Mais c'est là où tu te rends compte que ça peut être fait sans taper une théorie de fou. Même si à l'intro du livre, en fait, elle présente aussi les genres, les sexualités, la sexualité aussi, en un seul mot, asexualité. L'absence de sexualité. Donc je trouve que c'est aussi très appréciable en fait.
Puis je trouve, je trouve qu'en 2020, je sais pas quand le livre a été écrit,
21,
les années 2020, c'est quand même important à un moment donné d'arrêter de nier les existants ou les existantes. Et c'est ça le truc, c'est que moi quand on me dit c'est woke de parler des minorités, j'ai envie de dire appelle-moi woke, je m'en fous. Parce que c'est juste en fait prendre en compte le fait que oui, des minorités existent, c'est pas grave. On va toujours parler du majoritaire.
Oui.
C'est chiant, sinon.
C'est ça. Voilà. Bref, vous l'aurez compris, ce livre, ce petit manifeste, est un ouvrage qui va balayer en fait tout ce qui touche de près ou de loin à la masturbation et sur bien des plans historiques, scientifiques, sociologiques, mais aussi pratiques. Parce que quand même, c'est la pratique.
C'est ce que j'avais demandé, c'est que c'est pas trop théorique comme livre.
J'y viendrai, mais non, du tout. pas que.
Ouais, non, mais parce que ça pourrait, malheureusement, l'être.
Mais ça pourrait, mais non, c'est pas selon moi. Et le tout, avec pour objectif de sortir justement la masturbation et les femmes des cases, des tabous, des moqueries, de l'invisibilisation, et les armer, parce qu'elle, en fait, elle l'a dit au début. Enfin, quand elle a eu la naissance de sa fille, elle s'est dit, mais en fait, il faut que je fasse un truc pour qu'elle puisse s'armer, en fait. Et pour que ce monde lui appartienne aussi, en fait. Et souvent, que votre corps vous appartienne, c'est souvent déjà quand même une sacrée bonne étape, en fait, pour,
clairement, oui.
Pour ensuite avancer dans la vie. Et donc, justement, pour les armer, pour s'épanouir, s'approprier leur corps et leur plaisir. Et en fait, en 175 pages, je le trouve ultra riche. Hein. Vraiment, c'est vraiment très, très riche. Alors forcément, oui, il n'y a pas une thèse pour chaque chapitre, mais elle donne les sources, etc., ce qui permet en fait à celles et ceux qui ont envie d'aller plus loin sur certains sujets, de pouvoir le faire. Donc ça aussi c'est intéressant, c'est que c'est abordable à toutes et tous, et ceux qui ont envie et celles qui ont envie de creuser plus, allez-y en fait. Alors, historique, je disais, parce qu'en fait on remontera jusqu'à l'Antiquité pour constater que le rapport à la masturbation est très changeant selon les époques, ce qui est d'ailleurs intéressant à voir, c'est que tout n'était pas toujours qu'obscurité en fait dans le passé, et on a eu des périodes entre-temps qui, elles, par contre, étaient des périodes d'obscurité, quoi. D'obscurantisme plutôt, d'ailleurs.
Par exemple, le Royaume-Uni et dans l'Empire britannique, la période victorienne, de la reine Victoria, où on interdisait aux petites filles, aux petits garçons de se masturber parce que c'était contraire au devoir envers la reine. Donc on imagine le truc, quoi.
T'imagines ce qu'il faut pour la reine, quoi. Enfin, bref. Scientifique, on découvrira en fait les premières traces d'écrits au sujet du sexe et de la masturbation des femmes. Et j'ai aussi, dans ce même genre de choses, j'ai découvert l'origine du mot fallope. Vous savez, les trompes de Fallope. Et en fait, ça vient du nom d'un médecin italien. Moi, je ne savais pas. Alors, peut-être que je suis un ignorant, parce que je vois mes deux comparses d'émission qui se coulent la tête en disant oui, donc je suis un ignare. Mais c'est pas grave, je ne pense pas être le seul.
C'est que tes deux comparses, ils ont fait science à l'école, donc on leur avait dit. C'est juste ça, en fait.
Mais moi, j'ai aussi fait science. Dans les études poussées,
au-delà du bac.
Parce que j'allais dire, je ne l'ai pas appris au collège, moi.
Non, mais on devrait d'ailleurs l'apprendre.
Clairement.
Ça vient souvent sur le tapis.
Ok, et pour ceux qui n'auront pas fait d'études poussées, ça nous permet
De le savoir.
De le savoir, c'est ça, parce que sinon, on ne l'apprend pas. L'occasion aussi de découvrir des pionnières dans le domaine scientifique, de la recherche, de la littérature, qui feront leur possible pour faire avancer les connaissances autour du sexe, de la sexualité des femmes, dans leur domaine, comme je disais, mais aussi avec toujours cette envie de faire connaître plus largement. Alors évidemment, quand c'est du domaine scientifique, ça reste un peu dans le domaine scientifique, mais il y a des collectifs, etc., qui ont tenté de faire des choses, qui ont fait des choses, et c'est cité là aussi, et ça permet de, bah tiens, on peut aller voir un petit peu ce qui se faisait déjà, et là aussi, ça permet de se rendre compte que, bah, on réinvente pas le fil à couper le beurre tous les jours, quoi.
Ah, clairement, donc, il y a de la continuité. Okay.
C'est ça, il y a de la continuité plus que des cassures ou autres. Et vu que ce manifeste, en fait, se veut et est pédagogique, hein, selon moi, bah, il y a forcément une description aussi de tout ce qui constitue les organes génitaux des femmes. Ouais, ça a un côté un petit peu médical, mais je trouve que ça a finalement sa place, en fait. Parce que moi, je le vois un peu comme, alors, le manifeste, on aurait pu appeler ça peut-être l'encyclopédie de la jouissance ou de la masturbation féminine, plutôt. Mais je trouve que ça a vraiment sa place, parce que finalement, c'est une accumulation de petites connaissances, mais qui... Bah, qui bah, je suis désolé, enfin, je repense toujours à certains films que j'ai pu voir... Je repense à ce film que j'ai vu sur les acidiques où un jeune de 19 ans disait bah, une femme c'est un trou. Bah tu te dis bah ça pourrait lui être utile un livre comme ça en fait, tu vois, parce que vraiment, et je pense que c'est pas le seul quoi.
Mais en fait il y a une phrase qui dit pour bien trouver son chemin il faut avoir une bonne carte.
Bah alors, c'est ouais.
C'est,
bah, voilà,
c'est exactement ça quoi. C'est mieux.
Mais c'est...
tout simplement.
L'image est...
Bah non, mais voilà.
Non, mais t'as raison,
c'est pas... Enfin, pour moi, c'est pas honteux de dire ça comme non. ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, se connaître les zones qui peuvent être potentiellement érogènes, ouais. Connaître les zones qui peuvent être plus gênantes aussi, parce que voilà. Et puis, pouvoir justement savoir à peu près où on a envie d'essayer, bah, ça se fait aussi en sachant où ça se trouve et comment c'est fait.
Ouais.
Donc voilà.
Et le tout est accompagné de réflexions hein, sur les mots qu'on emploie pour les nommer, ou encore du rôle et des actes de certains hommes du domaine médical. Alors évidemment, hein, je vous parlais du médecin Gabriele Fallopia, hein, trompe de Fallope, rappelez-vous, comme cité précédemment, ou encore de James Marion Sims, à qui on attribue quand même hein, les fondements de la gynécologie américaine. Et en fait, le gars... Ben, ces tests chirurgicaux, ils les faisaient sur des femmes noires esclaves.
Ah oui, oui, oui.
Sans c'est... anesthésie, sans rien, évidemment. Hein.
Il faut pas oublier qu'il y a une part énorme de la médecine jusqu'au début du XXe siècle, qui est même presque au début du XXIe siècle dans certains cas, qui est faite de façon totalement dégueulasse
et dans
des conditions horribles, et notamment parce que on estimait que certaines personnes sur Terre étaient moins des humains que d'autres.
C'est ça.
Et ça, c'est vraiment... Enfin, il faut jamais l'oublier, et ça ne veut pas dire qu'il faut renier les avancées scientifiques. Ça veut dire qu'il faut les recontextualiser et systématiquement le rappeler.
Ouais,
parce que je trouve que de ne pas le rappeler, c'est là qu'en fait on fait du révisionnisme, c'est-à-dire rappeler, oui, ça a été découvert, mais dans telles conditions.
Et je trouve que, enfin, là encore une fois, je trouve que c'est hyper intéressant. Enfin, vraiment. Enfin, oui, c'est hyper intéressant. Enfin, sinon je vous en parlerai pas ce soir. D'ailleurs, tu me diras. Alors, comme souvent hein, dans le livre, les sujets s'appuient sur des réalités qui touchent les femmes et des personnes ayant une vulve, comme par exemple l'esthétique de leur sexe. Et en fait, ils sont évoqués les 90% de femmes ayant déjà été complexées par leurs organes génitaux, mais aussi un projet qui a été fait justement pour démonter les idées reçues, qui sont souvent quand même à la source hein, des complexes, et ça nous parlera bah, des couleurs des sexes, des longueurs des lèvres, de la taille des clitos, du moins de la partie externe, et qui font qu'en fait, la réalité, bah, c'est la diversité. Ah. Ou la diversité, c'est la réalité. Et ça, c'est encore une fois, alors, on le sait, mais je trouve que quand on peut le démontrer, quand c'est appuyé, etc., je trouve que c'est toujours, en fait, il y a des choses qui, pour moi, en fait, sont utiles à rappeler, mais tout le temps, en fait. Tant qu'on n'aura pas changé, on va dire, vraiment fondamentalement de société, où finalement, ça deviendra une norme de dire, bah, en fait, on n'est jamais fait pareil. Il n'y a pas.
Du coup, on se le dira même plus. Si c'est une norme, on se dit bah,
c'est
jamais
ça
préparé.
En fait. Ouais, donc c'est vraiment. Et tu voulais dire un truc, pardon.
Oui, non, je voulais juste te dire, ça démontre une chose que les gens ont du mal à voir, mais c'est que la pornographie professionnelle n'est pas réelle.
Oui.
Parce que tous les sexes féminins se ressemblent dans la pornographie professionnelle, ou quasiment tous. Et c'est lié à une chose toute bête, hein, c'est qu'on fait faire de la chirurgie esthétique, la chirurgie vaginale, vaginoplastique,
ouais.
À beaucoup d'actrices pornographiques. pour qu'elles aient en fait un sexe interchangeable. Et alors, ça paraît violent ce que je dis, mais en fait en réalité c'est ça. C'est parce qu'en fait c'est né en fait d'une chose très claire, et ça vient notamment de grosses boîtes comme Dorcel qui disaient bah oui mais si l'actrice est malade, je dois pouvoir en prendre une autre et on ne doit pas voir la différence. Mmh. Donc forcément, il faut que tout le monde se ressemble.
Ouais, c'est la standardisation.
Voilà.
C'est la standardisation.
Donc ce n'est pas vrai, et surtout c'est terrible.
Ouais, ouais, et en même temps, elles en enfin, je vite faire un petit écart, ouais. Elles en parlent en fait dans le livre. Et en disant encore une fois que, bon, bah, quelles que soient les causes, pourquoi vous le faites, bah, si vous le faites et que vous êtes heureuse comme ça, tant mieux pour vous.
Je suis pas en train de.
Mais effectivement, c'est.
Moi, ce que je trouve terrible, c'est pas que les femmes le fassent parce qu'elles font ce qu'elles veulent de leur corps, c'est plutôt que ça renvoie finalement une image normative qui n'existe pas et qui, du coup, rebondit sur ces 90% de femmes complexées par leur sexe.
C'est ça.
Par leur vulve. Voilà.
Alors, aimez votre sexe tel qu'il est, il est ni normal ni anormal, il est. Et vraiment, c'est, je trouve que c'est le truc à retenir, quoi. Et il y a aussi régulièrement des réflexions, comme dit précédemment, sur le vocabulaire autour du sexe, de la sexualité, que les autrices ont trouvé chez d'autres, chez d'autres autrices, artistes, etc. Et en fait, qu'elles partagent avec nous. Et là aussi, il y en a une plus particulièrement que j'ai trouvé hyper intéressante, c'est sur la notion de pénétration versus circlusion. Parce qu'elle interroge en fait cette pseudo-passivité du vagin et ou de l'anus, hein, en tout cas, et de celles et ceux à qui possèdent ce vagin et cet anus, alors que forcément le pénis et ceux et celles qui le possèdent pénètrent et activement, quoi. Hein. Et justement, je me suis dit, tiens, j'avais envie de partager ça avec vous aussi, parce que ben, moi, j'avais jamais entendu ce mot circlusion.
Ah, si, dans la causerie. C'est Jonathan qui en avait parlé.
C'est vrai, de la circlusion.
Ouais, circlusion. Ouais.
Ok. Eh ben, redites alors peut-être, mais
non, mais il y avait eu, un petit sujet là-dessus une fois dans l'émission.
Eh ben, je répète alors, mais c'est pas de Jonathan cette fois-ci. Alors, comme le soulève l'autrice Victoire Tuaillon, la femme derrière l'excellent balado Les couilles sur la table, le choix en tant que société de dire que la personne avec un pénis ou sa représentation pénètre, et non que la personne avec un vagin enveloppe, est plutôt révélateur. Tuaillon n'est pas sans rappeler que lorsque nous déposons un objet dans nos mains, nous ne disons pas que l'objet nous prend, mais plutôt que nous avons pris l'objet. Par exemple, je prends un crayon dans ma main pour écrire. L'inverse, le crayon prend ma main pour écrire, semble plutôt incongru. Cette comparaison toute simple porte à réflexion. Dans cet ordre d'idées, la philosophe performeuse et artiste visuelle Bini Adamczak propose d'ailleurs d'avoir recours au néologisme « circlusion » pour remplacer le terme « pénétration ». L'étymologie de ce mot nous apprend que ce dernier se compose du préfixe « cir », un dérivé latin de « circum », qui signifie « autour », et du suffixe « clusion » de « clure », qui signifie « clore » ou « couvrir ». Plus précisément, La circlusion s'est définie comme le geste d'entourer, d'enrober ou d'enfiler. Des actions, vous en conviendrez, qui s'appliquent toutes au vagin lors de ce type d'activité sexuelle. Le mot circlusion permettrait ainsi de reconnaître à sa juste valeur la participation du vagin ou encore de l'anus selon la pratique et de la personne qui la possède dans les activités sexuelles. Et vraiment, j'ai trouvé ça hyper intéressant, en fait. Et il y a aussi un passage sur le fait que le ou la personne avec un pénis... merde, je me suis perdu. Ah, je me suis complètement perdu. Non, mais...
Bah, une pénétration, une circlusion.
Non, mais c'était pas ça, mais je me suis perdu, pardon. C'est vraiment, ce bouquin m'a foutu plein d'idées en même temps dans la tête. Et là, tant pis. Je vais continuer comme si de rien n'était, ou presque.
Ok.
Bah oui.
Allons-y.
Et après tout cela, bah il est temps de passer à l'action. Effectivement, c'est ce que tu disais avant, Fab, que tu interrogeais, est-ce qu'il y a aussi de l'action? Et bien pour cela, d'ailleurs...
Je n'ai pas dit comme ça, mais...
Non, mais oui, non, mais...
C'était pas mal comme
si
ça.
Si ce n'était pas que théorie.
Oui, c'est ça.
Et bien pour cela, les autrices rappellent déjà les bienfaits, en fait, de la masturbation, physique, mentaux, affectifs. Elles donnent aussi des pistes pour les plus timides, mais aventurières, pour que les séances de plaisir masturbatoire soient réussies. En rappelant, là encore, qu'il n'y a pas une manière de se faire plaisir, qu'il n'y a pas une ambiance, une position idéale du corps, des doigts, pour atteindre le plaisir. Elle rappelle qu'il faut essayer, tester, tenter, trouver ce qui vous plaît, ce qui vous excite ou participe à votre excitation. Une ambiance, une position, une pratique, des pratiques, en se frottant ou non, avec pénétration ou non, circlusion ou non, avec jouet ou non. Et, je vais bientôt terminer, et avant d'en arriver à la fin du livre, avec une section ressources, bah pour la prévention, cette section ressources, hein, mais aussi pour aller plus loin sur certains sujets, le livre en fait se termine sur les témoignages de 9 femmes de 30 à 90 ans sur leur rapport à la masturbation. C'est hyper intéressant, c'est fort par moment, pas spécialement joyeux par moment, mais ça se finit quand même toujours tiens, en fait la masturbation elle a eu ce rôle en fait dans ma vie et a ce rôle dans ma vie. Et je trouve que c'est hyper intéressant justement par rapport à tout ce que j'ai pu lire avant sur le fait de s'approprier, se réapproprier son corps. Et ben ouais, ça y participe beaucoup. Alors je m'arrête là, j'en ai sûrement déjà bien assez dit, voire trop pour certaines, mais vraiment je pourrais en parler des heures si j'oubliais pas ce que je voulais dire. Tant je trouve vraiment ce petit manifeste hyper bien foutu. Comment s'armer, découvrir, expliquer et aborder la masturbation, mais pas que, féminine et des personnes ayant une vulve, comme un sujet comme un autre en fait.
Parce que ça doit être,
ouais. Ça devrait être ça, sauf que...
Ça devrait être.
Oui. Sauf que c'est clairement pas le cas, ou alors on vit pas dans le même monde. Sans rougir, sans non plus donner dans le porno au service des mâles, parce que c'est pas du tout le propos. Et je le conseille vivement et honnêtement que vous soyez une femme, un homme, ou aucun des deux, que vous soyez cisgenre ou trans, que vous soyez jeune ou âgé, ce livre, en fait, devrait être lu par toutes et tous. Et vraiment, j'ai pensé, amis, auditeurs, auditrices, si vous êtes parents, tontons ou autres, c'est un livre, en fait, qui, moi, à mon avis, peut être offert aux ados de 14-15 piges, qu'ils soient mecs ou meufs ou aucun des deux. Mais parce que, justement, en fait, c'est... Il y a effectivement, je trouve que c'est une bible entre guillemets pour les femmes et les personnes qui ont une vulve.
Mais masturbation et bible dans le même phrase, balèze.
Ça c'est drôle.
Et oui, évidemment. Mais c'est vraiment aussi je trouve qu'il y a toujours cette notion de transmettre en fait. Tiens, outille-toi en fait et connais-toi. Et voilà. Enfin donc je rappelle, je m'arrête là. Je rappelle donc Petit manifeste de la masturbation féminine de Roxane Godette Loiseau et Mélanie Guénette Robert aux éditions de l'Homme. C'était en 2021 au Québec, c'est arrivé en 2022 en France.
Ouais, il y a toujours un temps pour que ça traverse.
Ouais, mais vraiment, enfin, je vous le conseille.
Moi, j'avais une question. Parce que tu disais que ça, tu disais que ça peut s'offrir à des jeunes très bien, je n'ai pas de souci avec ça. C'est plutôt en fait comment tu penses qu'on l'aborde, c'est-à-dire quand on doit l'offrir, je sais pas ce que je veux dire, parce que moi je vois pas ça en cadeau d'anniversaire.
Non.
Mais est-ce que c'est, non mais je veux dire,
mais en fait c'est, mais ça c'est en fait c'est toujours pareil, c'est déjà en fait je pense que c'est déjà beaucoup en lien avec votre propre rapport à la sexualité, à la masturbation. Ouais. Déjà si en tant que parent t'es complètement...
Alors je vais reformuler ma question, est-ce que c'est pas une bonne idée de le lire en tant que parent quand on veut l'offrir à un ado ou une...
Ah mais si, pour moi si, parce qu'en fait il faut pouvoir être...
De ma question, c'est ça.
Si évidemment, mais parce que derrière il faut que en tant qu'adulte, tu puisses à la rigueur venir apporter des précisions, enfin je sais pas, guider un peu plus. Mais en fait, c'est aussi le genre de bouquin qu'on peut avoir dans sa bibliothèque. C'est aussi souvent un moyen.
Traîner.
C'est ça, c'est aussi un moyen des fois d'emmener.
Puis quand ils le prennent pas, on tire un peu dessus pour qu'on le voit bien.
Non, mais oui.
Qu'il dépasse.
En fait, pour moi, c'est ça aussi parent, quoi. C'est aider l'individu qui se construit à être armé, outillé. Parce que des individus émancipés et des vrais individus, je pense que c'est toujours mieux pour imaginer des futurs différents, quoi.
Ouais, je suis d'accord avec toi, et surtout dans une période où on a quand même un retour de balancier très 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 fort des réacs de tous les côtés du monde et dans tous les coins du monde, on en parle régulièrement dans l'émission, et où en fait justement la sexualité ou votre liberté de genre ou votre liberté sexuelle redeviennent des sujets éminemment politiques, mais dans le mauvais sens du terme, c'est du ça. Coup, dans ce sens-là, parce que c'est les réacs qui s'en emparent, alors que c'est pas eux justement de s'en emparer, ce serait plutôt au progrès progressiste et que du coup, il y a une base progressiste qui a tendance à avoir abandonné un petit peu ce terrain de lutte. Et je pense que c'est important de le reprendre et ça peut aider effectivement de rappeler aux gens que finalement d'être des branleurs et des branleuses, c'est une bonne chose.
Mais
voilà, et qu'il faut, non mais voilà, mais c'est tout bête à dire, mais le plaisir c'est quelque chose de central et il faut le garder. Et que en fait, une société où on nie le plaisir, c'est un début de société triste et c'est de, généralement des sociétés qui vont pas vers le mieux. Et donc ouais, c'est important d'avoir ce genre de livre et merci de l'avoir présenté ce soir.
Eh ben écoutez, à votre bon plaisir. Si auditeur, auditrice, vous l'avez lu ou si vous allez le lire...
Faites des retours.
Ouais, vraiment. Enfin, moi, je suis curieux parce qu'après, je peux avoir un regard déformé de ma position, etc. Mais moi, je le trouve vraiment plutôt bien foutu et avec plein de petits dessins, plein de trucs et tout. Donc, allez-y. Masturbez-vous dans la joie et la bonne humeur. Et un petit titre pour y aider. Allez. Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu et en direct, c'est la causerie comme tous les dimanches de 22h jusqu'à 23h et quelques. Et on vient de s'écouter. Alors, je remercie MK qui à l'époque m'avait fait découvrir ce titre qui est un hymne à la masturbation. C'est absolument magnifique. Masturbation féminine. Et c'était donc le titre diamant du groupe Bagarre.
Tout à fait.
Voilà.
J'aime bien le groupe Bagarre.
Ah ouais, c'est.
Non, mais pas que cette chanson.
Ah non, mais alors celle-là, moi, je la trouve absolument magnifique, quoi.
Allez, quelques petites infos. Allez, ça démarre lundi 24 avec l'Assemblée du Comité des Luttes. Donc, c'est intitulé Le gouvernement veut tourner la page, nous. Pas, ou pas nous, plutôt. C'est de 18h à 20h et c'est à la Bourse du Travail. Ensuite, le même jour, et là, c'est là que ça se complique un peu, mais pas vraiment, parce que quand vous sortez à 20h, vous pouvez aller participer aux casserolades devant les hôtels de ville, les mairies, les différents trucs comme ça. Donc, devant l'hôtel de ville de Lyon, devant la mairie du 4e et du 8e, devant la mairie de Villeurbanne, tu prends ta plus belle casserole et tu viens taper dessus à partir de 20h. C'est assez sympa. Et si tu tapes en rythme, ça peut être joli. Voilà.
Si les préfets ne les interdisent pas d'ici là.
Eh ben, si on peut pas taper sur des casseroles, on tapera sur autre chose.
Sur des bambous, peut-être.
Voilà. Et on sera numéro un. Et donc, du coup, et voilà, c'est nul. Philippe Laville représente. Et donc, sinon, dernier rendez-vous. Donc, ça se passe. Enfin, j'ai deux derniers rendez-vous. Le 20, je suis désolé, hein, c'est le 27, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est le 27. C'est Lyon Info Migration. Je vous rappelle qu'il y a la loi Darmanin qui doit sortir. Voilà, qui propose de se réunir de 18h30 à 21h au Casdal. Et le Casdal, c'est. Et là, j'ai pas du tout l'adresse, donc c'est là que je suis merde.
Bah, vous chercherez.
Vous chercherez, c'est le Casdal. Voilà. Bon, je passe.
C'est pas grave.
J'ai pas, et un dernier rendez-vous, parce qu'il est assez important. Ça s'appelle de l'acroléine au PFAS au sud de Lyon. Rencontre sur les mobilisations contre les polluants industriels. Et donc, c'est afin d'aider une mobilisation populaire contre les PFAS. AS et toutes les pollutions industrielles. Ils ont pensé qu'il serait utile de connaître les précédentes mobilisations autour de ces mêmes usines aujourd'hui et celles à mener demain, pardon. Et c'est donc une discussion qui a lieu le 27 avril à 19h, 37 avenue Jean Jaurès à Oullins.
Voilà. Okay.
Vous savez pas ce que c'est tout ça, c'est les perfluorés, donc c'est tout ce qu'il y a dans l'eau du Rhône en ce moment qu'on nous dit faut plus rien manger.
OK, donc, très bien. Et le rendez-vous suivant, c'est dimanche prochain. Alors oui, évidemment, il y a la causerie 22h 23h et tu dis bon, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre les quelques heures qui précèdent la journée. Ben il y a plein d'autres choses. Alors ça se passe au CCO de Villeurbanne. C'est le réveillon des luttes de Solidaires Rhône. Alors ça commence à 14h, il y a des ateliers féministes, il y a des discussions, des projections, des tables rondes, il y a un apéro, etc., etc. Et à partir de 19h, il y a les concerts. Alors ça commence par la chorale féministe Les Branleureuses. Ah bah tiens. et ensuite à partir de 19h30, il y a trois concerts dont Dub Amix et Ultramoule et Sidi Wacho. Donc n'hésitez pas, c'est la veille du 1er mai, donc c'est pour s'ambiancer avant d'aller manifester.
Parce que le 1er mai, tout le monde dans la rue.
C'est exactement ça, parce que justement lundi prochain, c'est le 1er mai, donc on sera nouveau là avant, mais c'est bien de se le donner. Et vite fait, juste aussi, parce que vous avez sûrement entendu, là, ça fait 10 ans qu'il y a la loi pour le mariage, pour toutes et tout ce qui est passé. Et je vous invite vraiment à regarder un docu qui est passé sur Arte, qui est disponible encore, qui s'appelle « La violence anti-queer », pour démontrer que c'est pas parce qu'une loi donne une égalité que dans les faits, il y a de l'égalité de partout. Et que encore aujourd'hui, parce qu'on est pédé, parce qu'on est lesbienne, parce qu'on est trans, on peut se faire éclater la gueule, on peut se faire agresser verbalement, physiquement, on peut se faire tuer aussi, et que c'est pas une loi sur un mariage qui va changer la donne, c'est encore là aussi une lutte quotidienne et qui durera malheureusement encore, je le crains, pendant longtemps, parce que là encore une fois, il s'agit pas que de regarder notre nombril, déjà à l'échelle de notre nombril, c'est pas la meilleure des époques, mais à l'échelle du monde, elle est pas bonne non plus. Donc voilà, vraiment, je vous invite à le regarder, il est vraiment très très intéressant, parce qu'il y a des victimes de plein de pays européens, ouais, des Français, fait. Des Allemands, des Américaines aussi, je crois.
Non, des Anglaises.
Des Anglaises, ouais. Pardon. Donc vraiment, allez-y.
Et
encore un autre docu aussi
facile. Ah, alors, avant, et je ne laisserai pas l'autre docu. Moi, ça me permet de saluer Arnaud Gagnoux qui qui est dans ce documentaire, oui. qui est un copain, et que voilà, je le remercie vraiment très fortement pour sa visibilité, ce qu'il fait et le fait de ne pas baisser la tête pour essayer de dire en fait c'est pas normal, et surtout tout ce qu'il fait auprès des plus jeunes pour essayer de leur faire comprendre que ben, l'homosexualité c'est pas grave.
C'est ça.
Voilà.
Non, mais et un dernier docu, après vraiment je me tais, c'est parce qu'avant on parlait du retour des religions, et là je vous invite vraiment à regarder Les Évangéliques à la conquête du monde. C'est en trois parties, c'est pour constater factuellement, parce que souvent on peut nous dire à nous, ah, vous êtes des anticléricaux, vous faites chier, etc. Vous savez, enfin, vous tapez sur les religions pour rien. Et ben en fait, je pense que c'est un docu à regarder parce que justement, en fait, ben, les religions, et celle-ci particulièrement, n'est pas du tout en recul. C'est une des plus puissantes et qui le monte, qui monte de plus en plus. Et je crois qu'on en avait déjà parlé dans la causerie il y a quelques années. Et ben ouais, c'est un constat. Bolsonaro, les Trump, etc. sont tous soutenus par des religieux. Tous les régimes autoritaires et pires sont majoritairement tenus et soutenus par des religieux. Et là, vraiment, enfin, je vous le conseille, c'est Les Évangéliques à la conquête du monde en trois parties, et donc aussi.
Et c'est très bien fait.
Ouais,
c'est pas chiant.
Super... Non, du tout. Donc voilà. Maintenant, je me tais. Et qui annonce le dernier titre ?
Bah toi, parce que du coup, j'ai fait mon cahier.
Alors, je ne me tais pas.
Désolé.
C'est un titre de Théo Charaf, Divile Got My Woman, et on vous donne nous rendez-vous dimanche prochain 22h, 23h, toujours à l'antenne de Radio Canu. Et d'ici là, ben, bon courage, bonne lutte, bonne vie et bonne branle. Allez, des bisous.
Des bisous.
Ciao.
From my best friend.